Démenti, bienvenue au Club Démenti, c'est mon club de lecture. Bonjour, bonsoir, j'espère que ça va bien. Je suis aujourd'hui, nous allons vous parler de Baby Cakes, le tome 4 des Chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin. J'ai lu ça, moi, et j'ai lu ça en compagnie de plein de charmantes personnes, dont celle que vous entendez peut-être un petit peu rire, là. MH la lectrice, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir. Je suis également en compagnie de ma fidèle acolyte, Maps.
Allô! Bonsoir, Maps.
Et j'ai aussi le grand plaisir de voir ce retour, le grand retour de Dom Fortin. Bonsoir, Dom.
Bonjour, content d'être avec vous. Même si ma caméra est croche, ça va me gosser tout le long, mais c'est pas grave parce que le monde peut l'écouter en audio.
Oui, l'audio existe, donc vous pouvez effectivement nous écouter en audio. Là, il y a des gens qui sont déjà prêts au rendez-vous. Alors, il y a Sonia Jean qui dit que le livre est tellement beau. Et Sab et les livres, salut Sab, qui dit salut, salut.
Allô.
Alors, avant de vous parler de ce livre, donc je veux juste vous rappeler que ceci est un club de lecture. Donc, je vous rappelle que on prend pour acquis que vous avez lu le livre. On ne va retenir aucun divulgateur. John est mort!
Oui, mais oui!
Non!
Ça part bien.
Fait que ça part. Ben, effectivement, ça part comme ça. Mais bon, bref. Fait que ce livre-là, ça part. pour vous faire un bref résumé, il y a, contrairement au tome précédent, là, il y a vraiment juste deux intrigues principales, c'est-à-dire Michael qui voit, dont le copain John est décédé du sida. On est en 1983. On va parler du sida. John est décédé et donc il va aller vivre son deuil en Angleterre. Il va se faire des petites vacances en Angleterre. Parallèlement à ça, toujours à San Francisco, on a Marianne qui va désespérer pour faire un enfant à son mari Brian. Et elle va vraiment tout essayer pour lui faire un enfant. Donc ça, ce sont les deux intrigues principales de ce tome-ci. Et j'ai envie d'y aller avec MH. MH, dis-moi donc, là, qu'est-ce que tu as pensé de Baby Cakes?
Ben, dans Baby Cakes, tu nous avais déjà dit que la première trilogie avait comme une vibe en soi, la deuxième aussi, puis que c'était quand même différent de la première. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment vrai parce que... Vraiment vrai. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que j'ai trouvé que c'était moins... Moi, ce que j'avais aimé de la première trilogie, c'était que, tu sais, c'était lumineux, patchouli, un peu rocambolesque, plein d'affaires, rideaux de baies de bois. Mais là, j'ai trouvé que c'était un peu moins ça dans, en tout cas, ce premier tome-là de la deuxième trilogie. J'ai pas haï ça, que ça soit différent. C'est comme si il y avait plus... Il y a plus une ligne directrice, tu sais, il nous lançait moins des affaires, genre une secte! que quelqu'un qui meurt en bas d'une falaise. Genre, il nous lançait moins des affaires de même, puis c'était plus comme... j'ai trouvé comme s'il y avait plus un cheminement dans les personnages, au lieu de leur faire vivre des affaires, c'est comme s'il y avait plus une vie intérieure plus riche, mettons. Là. Mm-hmm. Surtout qu'effectivement, on se concentre plus sur deux histoires, comme tu l'as dit, au lieu de se garrocher un peu partout, comme dans les autres tomes. Fait que, encore une fois, moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience. C'est des personnages que j'aime. J'aime ça les retrouver à chaque fois. J'étais très triste que John soit mort. En fait, moi, je me disais, là, t'as peu, là. C'était-tu dans le dernier livre, puis je m'en rappelais pas? Puis j'étais comme, genre, lisais mes notes, puis je me disais, ben voyons, je ne l'ai pas noté, un événement majeur de même, mais là, finalement, tu le lances comme un spoiler. Fait que j'imagine que c'était juste, ils nous lancent ça de même, puis tu sais, on ne le voit pas dépérir, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe, ni rien. Là, ils font juste nous arriver, John est mort du sida. C'est comme, oh, pelay. Sinon aussi, j'étais contente de retrouver Mona. Je suis sûre que Dom aussi était content, parce que la dernière fois, tu trouvais que ça manquait de Mona. Mais si je me souviens bien.
Oh oui, tu te souviens très bien. c'est pas mal mon personnage préféré avec Brian.
OK, OK.
Mm. Pas Marianne, mais ça, j'en parle tantôt.
Ouais, c'est ça. on dirait que je sais pas. Je vais peut-être rebondir sur les sujets que les autres vont aborder, mais grosso modo, c'est ça. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Peut-être moins que les derniers tomes. Je pense pas qu'il va être dans mes meilleures lectures de l'année, celui-là. Mais tu sais, je vais continuer la série, puis j'ai vraiment aimé ça quand même. Là. C'est un 4 étoiles pour moi,
Excellent. Et, ben là, je sens que Dom en a beaucoup à dire, mais puisque Maps en a moins à dire, je pense que je vais y aller avec Maps.
Bonsoir, je suis l'intrus de la soirée. Parce que à chaque tome, j'étais comme un peu mitigée, tu sais, j'étais comme, il y a des affaires qui passent, il y a des affaires que moins, mais au final, ça se lit rapidement, fait que je le terminais, tu sais. Puis il y avait souvent comme la fin, il y avait beaucoup de révélations, puis ça déroulait vite. Fait que tu sais, le début, comme j'y allais à pas de tortue, puis à la même année, il y avait comme un point tournant, puis je dévorais, puis j'étais comme, OK, je l'ai lu, c'est passé telle affaire, ça va. Puis là, j'ai commencé le quatrième. Il faut dire qu'il y a quand même un contexte aussi. T'sais, si j'étais en vacances, encore en congé de maternité, ça serait peut-être différent. Mais là, mon temps est compté. Je suis retournée dans le monde des adultes à travailler. Fait que j'arrive chez nous, j'ai plus de cerveau, j'ai genre 15 minutes pour lire avant de mourir de fatigue. Fait que là, j'ai commencé Baby Cakes avec aucune attente. Je pense que je suis rentrée là-dedans, puis j'allais voir ce qui allait se passer. Puis, je sais pas si vous vous souvenez de notre conversation sur le tome 3, puis moi, j'étais comme, il y a plein de nouveaux personnages, je comprends plus rien, ça prend du temps à tout comme remettre ensemble. Puis là, j'écrivais à Sylvain, c'est qui donc ça? Puis là, Sylvain était comme, c'est telle personne, puis elle a un lien avec telle personne, puis j'étais comme, Puis finalement, il y avait 3 nouvelles personnes, mais dans ma tête, c'était comme une immensité. Fait que là, j'ai commencé le livre, puis là, l'histoire de John, moi, j'étais comme, j'ai-tu manqué le fait que John y est mort? Puis un peu comme toi, elle marche, mais au lieu de faire comme « John, il est mort », j'ai fait comme « je m'en souviens pas ». Puis là, j'étais comme « ça, c'est beaucoup de désintérêt de ma part ». Là, j'ai écrit à Sylvain, genre « qu'est-ce qui s'est passé avec John ?» Il est comme « tu le sais pas ». Puis là, je suis comme « ah, oh, OK, je le sais pas ce qui s'est passé avec Sylvain ». Mais j'étais comme « je comprenais pas ce qui se passait actuellement dans ma vie ». Puis là, il y a eu un chapitre avec Prue. Puis j'étais comme « qui c'est donc c'est Prue ? Que c'est qu'elle a fait ?» Ça me rentrait pas, puis j'avais comme « aucun, j'avais, tu sais, j'avais pas de notes d'organigramme pour me raccrocher. Je pouvais pas juste continuer le chapitre sans savoir c'est qui cette fille-là, parce qu'on est supposé de savoir c'est qui.
En plus, là, ça revient même pas, tu sais.
Elle revient pas.
Non, elle est juste là comme pouf, Pierre.
Mais c'est ça, au début, il y a plein de caméos de personnages des 3 premiers tomes, mais qu'on voit à peine, genre Didi, on la voit à peine. Dort sa copine, on la voit à peine. Ils sont juste là, dire « Hey, on existe encore! » Puis après, c'est qu'ils disparaissent de l'intrigue.
Quelle horreur! Puis le truc qui a mis la hache, parce que je vous le dis, les amis, j'ai abandonné cette lecture-là après le chapitre de Prue. Là, il y avait un nouveau personnage. Et là, drop the mic, là, j'étais comme, non, là, c'est qui le gars qui n'est pas rentré dans le bateau, puis que c'est un anglo, puis là, finalement, en tout cas, là, non, j'étais comme, non, ça ne passera pas, là, c'est over, game over. Donc, là, c'est le fun, ton petit résumé, Sylvain, parce que j'ai appris des choses sur tes deux phrases, puis finalement, j'ai appris que les deux intrigues, c'est quand même deux choses qu'on sait dans les premiers chapitres, que comme Brian, il veut un enfant, puis que John est mort. Bon, on ne sait pas comment. Fait que voilà! C'est ce que je peux contribuer aujourd'hui.
Mais en fait, c'est ça, je trouve ça... Non, mais t'as le droit, là. Ça te tentait pas, c'était pas le bon moment. C'est pas un livre pour toi, c'est correct. Mais moi, j'avais hâte que t'embarques dans cette deuxième trilogie-là, parce que je me disais, ah oui, mais c'est vraiment plus pour Maps, parce qu'il y a moins il y a moins d'intrigues. Oui, il y a beaucoup de personnages, mais les intrigues reposent sur peu de personnages, finalement. Puis c'est ça. Puis c'est aussi le premier tome qui est écrit, qui a été publié directement comme un roman. Ça a été conçu comme un roman. Mm-hmm. Donc, ça feel beaucoup plus comme un roman que les premiers tomes qui étaient vraiment comme publiés dans le journal.
La chronique.
Oui. Chronique. Donc, c'est ça. Fait que je trouve ça ironique que le tome que je me disais que tu allais enfin accrocher à la série, finalement, c'est celui où tu débarques.
C'est vrai. Mais tu sais, toutes les histoires, toutes les péripéties, ça, c'est quelque chose que j'aime de façon générale. Tu sais, dans le tome 3, c'est ça, c'est l'histoire de la secte qui m'a tenue, puis le dos de louche, puis les enfants, tu sais, qu'on ne sait plus trop son où. Comme c'est l'histoire plus que les personnages qui m'a tenue. Puis là, tu sais, tu parles des deux trames narratives, c'est quand même, je sais pas, rapidement comme ça, sans l'avoir lu, c'est quand même deux trames narratives qui n'ont pas l'air si comme divertissantes que ça.
Ben, c'est parce que celle de Brian nous amène à Mona qui vit quand même quelque chose d'assez funky. En tout cas, moi, je trouve.
Ouais. Il y a des choses qui se passent. Mais on va te révéler tout ce qui se passe dans
oui,
ce
livre. Oui, c'est ça. Je vais faire des...
Oh, oh non!
Alors, Dom, qu'est-ce que tu as pensé de Baby Cakes?
Ben, je suis un peu un entre-deux. Je suis quand même d'accord avec beaucoup de choses que Map se dit. Moi, le fait qu'il n'y ait plus d'enquête, on dirait que ça m'a... J'ai quand même fini. Là. Mais j'ai eu de la misère un peu plus. Parce que c'est sûr que là, il y a une des intrigues que j'ai pas tellement aimée, là, que tout le long, j'étais un petit peu comme « Ah, oh, j'étais tanné ». La fin sauve cette intrigue-là. Connie et MVP... C'est le meilleur personnage de cette tombe-là. Mais c'est sûr que les histoires d'infidélité a pu finir. M'emmener Marianne, qui le plan diabolique de Marianne, qui est l'héroïne du roman, mais qui est la méchante. Je sais pas. Parce que d'habitude, il y a toujours une méchante dans chaque tombe. Celle-là, pour moi, c'est Marianne. Là, c'est... Puis Michael aussi, je suis tout cœur avec lui, surtout au début avec John. Mais l'espèce d'idylle avec un petit gars de 16 ans, j'avais hâte que ça finisse. Parce qu'il se passe jamais rien. Heureusement, Michael ne fait rien avec le petit gars de 16 ans. Mais Mona est toujours en train de le pousser. Ah, oh, vas-y, Michael, il t'aime. Puis, il m'a emmené comme Mona, arrête. Michael, il n'est pas intéressé. Puis c'est sain. Michael est sain d'esprit présentement de ne pas être intéressé. Et je suis content. Là. Parce que ça a été écrit là, plus de 40 ans. Mais quand même, là. Ça aurait été ma limite. Ça aurait été vraiment... Là, j'aurais fermé le livre. Mais heureusement, Michael, toujours un très bon personnage, il ne rentre pas là-dedans. Il va peut-être le faire plus tard, je ne sais pas, là, mais quand le personnage va être plus vieux. Là. Mais j'espère que non. Là, mais écoute, s'il m'a emmené 30 ans, puis l'autre 40... Je ne me souviens plus, Michael, il a quel âge? Ah non, ils sont quand même dans la trentaine.
Dans la trentaine?
Il approche la quarantaine. Ouais, non.
Mais moi, je veux juste embarquer là-dessus pour dire que ça, pour moi, c'est la seule chose de vraiment positivement lumineuse dans ce livre-là. C'est la relation entre Michael et le gars dont je ne me souviens plus du nom. Wilfred. J'arrive à m'en souvenir, c'est Wilfred.
Que passent les saisons.
Ça reste une belle relation.
C'est une relation d'amitié, puis c'est une relation que quand tu es un gars gay de 16 ans, que ça ne va pas bien à la maison, c'est le genre de relation que tu rêves d'avoir avec quelqu'un qui abuse pas de toi, qui profite pas de toi, qui est là pour te guider. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau dans cette relation-là. Qui n'est pas une relation amoureuse, là, qui est une relation vraiment...
Oui, Wilfred est en amour avec, mais tu sais, c'est...
Oui, parce que c'est ça quand tu as 16 ans, puis quelqu'un, un homme gay s'intéresse à toi.
T'amène dans un château, en plus. Mais
écoute... fait que c'est ça. Mais vas-y, je te laisse poursuivre.
Mais tu sais, il y a quand même des côtés que j'adorais. Le personnage de Brian dans le roman, je trouve que c'est lui qui... T'sais, dans d'autres romans, il n'y avait pas vraiment rapport avec la fin. Là. Brian, il est supposément un des personnages importants, mais à chaque fois, à la fin, il est un peu plus effacé. Mais là, au moins, c'est lui. Tout le long, il met l'intrigue, est-ce qu'il va tromper Marianne ou pas? Puis au final, le fait qu'elle ne trompe pas, puis que ce soit lui qui reste fidèle, puis que ce soit Marianne qui soit diabolique. C'était quand même une bonne intrigue. Là. Mais on pourrait le dire à Mabs, dans le fond, ce qui se passe à la fin avec...
Mais oui, je suis là pour les divulgations.
Sinon, elle ne comprendra rien.
On va dire tout ce qui se passe dans ce livre.
C'est ça. Je reste assez mitigé. J'ai aimé ça, mais quand même beaucoup de passages où je les évite. Là. J'avais hâte d'arriver à la fin, voir si... En fait, j'avais hâte de voir s'il allait avoir une enquête. Puis je pense que le fait que j'avais des attentes, si j'avais pas eu d'attentes, j'aurais peut-être apprécié ça plus. Mais l'absence d'enquête là, m'a emmené... Je pensais qu'il y a vraiment un bout que j'ai adoré sans rapport à Simon. Sa famille plutôt. Il y a le combat, puis il y a un mort, puis la réaction de Michael, de Wilfred, puis la nounou. Comment qu'il appelle ça?
La...
Ouais.
me souviens plus. La nurse, ouais, la sa vraie mère, en tout cas la vraie mère de Simon. Ouais. Puis ce bout-là est très très bon, là, mais tu sais, c'est comme au milieu du roman. Puis après ça, cette intrigue-là disparaît. Mais je suppose qu'elle disparaît juste pour mieux revenir dans le prochain tome, parce que le tome finit en rapport avec Simon, fait que Simon va peut-être revenir. Mais d'habitude, les amourettes de Marianne ne reviennent pas, là. Mais, OK, je
dirais rien.
On ne dira rien.
Elle les a, je pense.
Mais Sylvain, à ton tour.
Alors, moi, comme vous le savez, j'ai lu les 6 premiers tomes back-à-back quand j'avais 17 ans, peut-être 16 ans, 17 ans. Là, j'étais vraiment très jeune. Et puis, je n'en ai pas parlé nulle part, jamais à personne, parce que je ne voulais pas influencer personne. Mais moi, je me souvenais de Baby Case comme étant le tome que j'aimais le moins. Et maintenant, je l'ai relu et mon avis a plus ou moins changé. Mon avis a évolué, on va dire. C'est que c'est le seul tome que je n'aime pas. j'ai haï ça, là.
Oh, ouais!
J'haï ce tome-là.
Ah, oh, non, je quitte.
Je me sens moins mal. Là. Il y a juste ses marches. Il y a juste ses marches.
Je t'ai tout ça.
Ah non, ça se peut.
Non, mais c'est que moi, ben, premièrement, ça commence avec. Ben, je comprends comme historiquement parlant la présence de ce livre-là. D'ailleurs, c'est le premier livre qui fait mention de SIDA. C'est la première fiction dans laquelle il était mention de SIDA. Donc, bravo. Amisa de Maupin est vraiment comme. Il était woke avant que ce soit une affaire. Puis, mais l'affaire, c'est que, ben c'est ça, on est dans les années 80. Ce livre-là a été écrit en 1983, publié en 84. Le sida est arrivé. Ce n'est plus les années folles. Ce n'est plus le sexe libre comme c'était dans les années 60-70. C'est plus la folie. C'est plus rigolo. C'est... OK, les gens meurent. Et pour Armistead Maupin, mais c'est les gens autour de lui meurent. Et je pense, je ne sais pas, là, je ne connais pas sa vie personnelle. Peut-être, je ne sais pas si lui connaissait, probablement qu'il connaissait des gens qui sont décédés du sida parce qu'il connaissait des gens. Et c'était les années 80. Mais même si ça ne l'a pas touché personnellement de façon très proche, je trouve que le deuil peint ce livre-là énormément, surtout quand on le compare aux 3 premiers.
Ah, oh ben là, c'est clair.
Oui, il n'y a quasiment plus d'humour, dans le fond.
Les blagues sont... Plus tellement de blagues, il n'y a plus la folie, je trouvais. En fait, on pourrait dire qu'il essaye, là. Mais pour moi, c'est toujours comme des lapins qui sortent du chapeau. C'est jamais crunchy comme ça l'était. Je vais en parler davantage. Mais c'est ça. Donc, Michael est en deuil. Puis ça, c'est triste. C'est pas quelque chose de le fun à vivre. Puis je comprends que c'était pas le but du livre d'être drôle et amusant. Là, en ce moment, il se passait telle affaire, puis on avait ce sujet-là à aborder, puis c'était important qu'on en parle. Fait que, tu sais, je comprends. Je comprends l'existence du livre, puis je pense pas que l'auteur a écrit un mauvais livre. Je comprends comment il a été conçu, dans quelles circonstances il a été conçu, il a été écrit. Mais moi, j'ai pas de fun, et j'ai vraiment même du mal à lire ce livre-là. Ça me fait bien de la peine, là. Ça fait bien de la peine de dire ça. Mais il y a ça. Alors, il y a le sida. Dans une des deux intrigues, il y a le sida qui est vraiment hyper présente. Puis dans l'autre intrigue, il y a... Et là, je vous en ai parlé de ça, qu'il y avait vraiment un changement de ton entre la première trilogie et la deuxième. Marianne évolue d'une façon que je déteste. Au départ, dans les premiers tomes, c'est la petite fille de Cleveland qui arrive à San Francisco, qui est comme « Ouh! Ouh! T'es gay! Ouh! Ouh! Du sesque! Ouh! » Je sais pas. Elle est vraiment comme le fun à suivre, puis innocente. Là, elle est plus innocente. Là, elle est comme rendue comme OK, c'est de même, ça se passe à San Francisco. Ben, here I come. Puis, genre, ben, littéralement, en fait. Parce que là, pour expliquer à Matt ce qui se passe avec Marianne, c'est que là, elle a envie de faire un enfant à Brian. Mais elle sait, et lui ne sait pas, encore là, shenanigans, qu'on ne perdra pas de temps à expliquer, mais elle sait que Brian est infertile. Mm. Donc, elle va aller coucher avec ce petit Anglais, Simon, qui est comme le petit, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau à Brian. Donc, c'est parfait, elle décide de coucher avec. Revirement de situation, oups! Il est lui aussi infertile puisqu'il a aussi...
Oui! Oh mon Dieu, j'ai tellement trouvé ça bon! J'étais comme 15! C'est le clip.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, c'est ça, je la trouve... Effectivement, t'en as parlé, Dom, je trouve qu'elle devient une méchante, je trouve qu'elle devient une vilaine. J'aime pas cette histoire-là, j'aime pas qu'elle fasse tout ça dans le dos de Brian, j'aime pas qu'elle manipule... Tu sais, alors que elle pourrait juste en parler et essayer de trouver une solution avec lui. Elle décide de s'embarquer dans cette affaire-là puis de faire ça par elle-même. Puis je suis comme, oh, j'aime vraiment pas ça. Je comprends. À un moment donné, Brian est comme vraiment en colère contre elle. Puis je le comprenais. J'étais comme, va-t'en de là. Mais bon. Alors, la nouvelle personnalité ou l'évolution du personnage de Marianne est quelque chose que j'aime vraiment pas. Puis là, on jumelle ça à un sujet hyper dramatique que j'ai pas forcément envie de suivre. Fait que ça fait un tome que j'ai pas trop aimé. T'as souligné, Dom, toutes les intrigues, parce que là, il y a effectivement un nouveau personnage qui est un charmant garçon british qui débarque à San Francisco. Et puis, pendant ce temps-là, Michael, ils font comme un swap d'appartement. Michael se retrouve chez lui. Et ben là, on découvre plus sur la vie de ce nouveau personnage-là. Puis là, on découvre qui sont ses vrais parents. Puis quelque chose qui... Tu sais, tu as décrit toute la scène là, d'homme tout à l'heure, mais moi, je lisais ça, puis je me disais, mais je m'en calisse de Simon. je m'en fous de ces intrigues-là. Je m'en fous de ce personnage-là. C'est comme si... Tu sais, j'ai comparé les premiers tomes à un soap, comme je sais pas, les feux de l'amour ou quelque chose comme ça. Là, c'est comme si tu me faisais regarder Philadelphia avec Tom Hanks, qui est un film hyper sérieux, où Tom Hanks est en train de mourir du sida. Puis en plein milieu, tu me dis « Oui, mais sa mère, c'est pas sa mère! » Mais je suis comme « Je m'en sac! » C'est pas le ton, ça marche pas avec le reste du livre. Fait que c'est ça, je veux juste dire, je suis passé par-dessus Caroline Sarah qui nous a fait un halo tout à l'heure. Je suis d'accord avec Sylvain, j'ai lu les 9 tomes et le 4e est aussi celui que j'aime le moins moi aussi. Donc moi j'ai lu les 6 premiers. Je sais que 5 et 6 sont meilleurs ou en tout cas ils me plaisent davantage. Mais je suis content de savoir que la dernière trilogie que je n'ai pas encore lue est aussi bonne. Fait que c'est ça. Aviez-vous d'autres choses à discuter?
Ben écoutons, moi je me dis, si Cat Atwell, c'est pour être le pire tome, c'est pas si mal quand même. Là. Ouais. Parce que je ne sais pas, tu sais, là, vous en parlez, puis de ce que vous avez moins aimé, mettons, puis je le vois, je le comprends, mais on dirait, je me dis... que pendant ma lecture, j'ai tellement aimé comme les 3 premiers tomes que je veux continuer à aimer cette série-là. Puis, quitte à ce que ça veuille dire de l'aimer d'une autre façon, genre d'aimer que ce soit dark, puis d'aimer que Marianne soit machiavélique. Puis, tu sais, je veux dire, moi aussi, il y a des affaires, je lisais, puis j'étais genre, oh mon Dieu, ben voyons donc, on lit. Mais j'ai décidé de l'accepter. Puis de l'apprécier dans le voyons donc, dans cet esprit-là, tu sais. Mais je comprends totalement vos points. Puis je me dis, c'est ça, même si je suis seule dans ma gang d'avoir aimé ça, je me dis, si c'est pour être le pire, je me réconforte avec ça. Fait que,
mais vraiment.
J'ai encore plus hâte de lire le 5e, donc.
Mais je pense que ça va te plaire de plus en plus à partir de ce moment-ci.
J'ai bon espoir. Je serais très surprise de faire un map, c'est de quitter le navire.
On peut quand même mentionner un point positif que Je pensais que ça allait finir de manière cliché, que c'est Michael qui finit par être le donneur de sperme. Mais avec la mort de Connie, parce que c'est Connie qui, comme... tu sais, Marianne, elle considère comme une tâche amande tout le long. Là, elle a oublié Connie dans sa tête tout le temps. Puis,
c'est vrai.
Elle ne veut plus être amie avec Connie, elle ne veut plus rien savoir. Mais Connie meurt en accouchant, puis elle donne son enfant à... Ben, elle espère que Marianne va accepter de s'en occuper. Marianne, elle s'en occupe avec joie. Ça sauve le couple Brian puis Marianne. Fait que c'est Connie un peu qui donne un acte de foi à Marianne. Puis ça lui donne une espèce de rédemption. On dirait que Marianne recommence à avoir une âme après ça.
Ouais.
Parce qu'avant ça, elle était juste en train de devenir la méchante. Puis après ça, elle commence à culpabiliser. Comme, oh non, mais dans le fond, Connie, c'était une bonne personne. Puis c'était moi la méchante. C'est peut-être moi qui est une conne, dans le fond. Puis, c'est, elle, c'est pas dit de même, là, mais à l'église, à l'enterrement, bon, à l'église, elle s'en veut un peu. Puis elle commence à culpabiliser. Je sais pas à quel point qu'elle va culpabiliser dans les prochains tombes. Ça se peut qu'elle... Que ça passe déjà à autre chose, puis qu'elle n'en reparle plus jamais comme l'homme qu'elle a assassiné dans la montagne. Peut-être qu'on n'entendra plus jamais parler de presque. Mais c'est ça. Au moins, il y a
finalement, elle a toujours été vilaine.
Oui! On aurait dû le voir aller, mais non. Ça, au moins, il y a cette espèce de surprise-là. Enfin.
Mm-hmm. Il y a ça que j'ai de la misère, c'est que ça va tellement vite, je trouve, dans les tombes, qu'on a de la misère parfois à comprendre leur cheminement psychologique. Tu sais, comme Marianne, je trouve que c'est la pire, là. Comme il y a plein de choses qu'on ne comprend pas pourquoi elle fait ces choses-là. On n'a pas accès à, comme, leur psyché, là, tu sais, l'intérieur de leur tête. Ça, je trouve que c'est difficile pour moi de, comme, les comprendre puis de m'attacher à eux parce que je suis, comme, juste à l'extérieur, tu sais. Puis je trouve que Marianne, c'est la pire de toutes ces choses-là. Ouais. T'es comme, mais oui, mais comment elle peut être une petite fille naïve qui comprend rien, qui arrive à San Francisco toute fraîche, puis elle pitch quelqu'un de la montagne, puis aucun remords jamais qui sont revenus, là. Il n'y a pas de PTSD, là.
C'est une psychopathe, dans le fond, puis...
Un petit peu. Mais là, vous vous dites comme si elle l'avait poussée, mais c'est pas ça qui est arrivé, là.
Non, c'est un accident, là.
Ouais. Un accident.
Mais elle l'a caché, puis il n'y a personne qui le sait, à part Michael, je pense, ou Brian. Je sais plus.
Au moins, Michael n'a pas enterré le cadavre, lui. Il l'a pas enterré. Il l'a laissé là.
Ah oui, c'est vrai, il y a un cadavre. Et j'avais oublié qu'il y avait un cadavre dans ce livre-là. Vous dire à quel point je ne m'intéressais pas à ces gens-là tout.
Ah, le monsieur qui est mort, le père, dans le fond, là?
Oui, le père.
Le père de
Le père violent, fait bon. Ouais. C'est pour ça que je pense que le roman passe vite dessus. Là. On ne voit pas d'enterrement ou quoi que ce soit pour ce personnage-là. Wilfred, il est juste content de partir. Son père violent, il est mort, puis il s'en va.
Hein?
Pas c'est sûr que dans la réalité, ça serait passé de même. Là. Je pense que Wilfred...
En fait, c'est son père violent qui a frappé le père de Simon.
Le père de Wilfred, il est encore
en vie. C'est vrai, il est encore en vie. C'est l'autre qui est...
On the road.
Dans le fond, moi aussi, dans le fond, j'ai peut-être sauté des bouts sur cette intrigue-là. Mais...
Qu'est-ce que vous avez pensé de... l'histoire de Mona, parce qu'on n'a pas parlé de ce qui y arrive.
Mona, en fait, moi, ce que j'aime vraiment pas, en fait, c'est vraiment ambivalent dans ma tête, parce que d'un côté, je n'aime pas forcément le nouveau ton que la série prend, qui est plus sérieux, qui est plus... Hein. Mais d'un autre côté, chaque fois qu'il essaye de sortir de ce ton-là puis revenir à faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire des surprises puis des punchs puis des affaires, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais dans ce livre-là, ça ne fonctionne pas. Moi, voir Michael en Angleterre qui, comme par hasard, tombe sur Mona, je suis comme... C'est comme too much. C'était correct, la secte de cannibales puis les affaires, puis tu es ma fille, mais je ne suis pas ta mère, je suis ton père. Tout ça, c'était correct pour moi. Mais ils se croisent, genre, à l'autre bout du monde. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, justement, à cause du ton du livre, on dirait que ça ne fit pas, ça ne marche pas. Fait que son histoire à elle, je suis bien contente qu'elle soit heureuse, qu'elle a un manoir, là, elle a marié quelqu'un, un Anglais, puis là, elle va s'occuper du manoir, puis tout ça, en Angleterre. Puis j'imagine que le 10e tome va parler de ça, parce que ça s'appelle « Mona in the Manor ». Mais il n'est pas sorti encore, fait que personne ne le sait. Mais c'est ça. Puis, tu sais, même à la fin, là, l'affaire de Connie, moi, ça m'a déprimé. J'étais comme, ah, oh, vite, un bébé! Genre, il y aurait eu une cigogne qui y aurait donné un bébé.
Non, c'est ça. Ça. Également, c'est plus compliqué que ça, les affaires. Là. C'est pas, elle n'aurait pas pu juste donner le bébé. Là. Ça n'a comme pas rapport.
Là. Non, attends, là, parce que si tu amènes la logistique légale là-dedans...
Non, c'est important. C'est important.
Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne dans cette série-là.
Oh, devrait au moins avoir un personnage enquêteur là, tu sais, qui fait le lien entre les tombes. Puis
il y en avait un qui est mort.
Mais en oui, mais il est un pédophile.
C'est vrai. Ah, encore bien. Mais je pense que ce qui ne marche pas dans le tombe, c'est qu'il laisse les suspens trop longtemps. Simon puis Mona, il laisse le suspense comme pendant des chapitres. Puis quand on découvre la vérité, on est comme, OK, ça valait pas la peine de laisser le suspense aussi longtemps que ça. Là. C'est...
Oui.
Ils nous font miroiter ça trop longtemps pour rien. Un peu.
C'est vrai. Parce qu'on la voit rapidement, Mona, dans le tombe. Ouais. Je trouve que ça gâche. Au début du livre, on la voit assis à la table, elle a un chapitre, puis je suis comme... Il me semble que ça spoil le fait qu'elle va revenir dans le livre. Mais...
Surtout que le chapitre, ça n'a pas grand-chose.
Non. Comment je tenais de faire des photocopies, mais c'est besoin d'argent. La presseur en train de faire. Oh là là.
Je trouve ça excellent comme résumé, c'est vraiment ça. Puis il y a une chose aussi sur laquelle j'ai envie d'élaborer un peu, c'est que moi, j'aime bien le début. Je sais que Maps, à chaque début de tombe, tu étais perdu, mais moi, j'aime ça. En fait, c'était mes deux parties préférées de chaque tome. Là. C'est le début et la fin, parce que la fin, c'est l'apothéose. Mais le début, c'est retrouver nos amis, puis voir en fait où est-ce qu'ils sont rendus dans la vie. T'sais. Dans le tome 3, au début, il y avait Marianne qui était comme en couple avec Brian, puis on était comme, ben voyons, qu'est-ce que ces deux-là font ensemble. Puis là, éventuellement, ils nous racontent un peu comment ils en sont venus là. Puis, malgré que je déteste que John soit mort, ben, tu sais, c'était un autre, comme, où en sont-ils dans leur vie? Fait que ça, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. J'ai un petit message ici de Célie qui dit « Salut Sylvain, vous passez les vidéos sur Death Note? » Ouf, c'est une très bonne question à laquelle je ne répondrai pas dans un podcast.
On veut savoir, Sylvain, ils sont où les vidéos de Death Note?
Ils sont en Angleterre. T'es allé les trouver.
Il va y avoir deux intrigues en parallèle tout le temps. Là. C'est ça que j'ai hâte de voir aussi, parce que ça ne se passera plus tout le temps à San Francisco. Là.
Ça fait extrêmement longtemps que j'ai lu les tomes 5 et 6. Je ne me souviens pas combien il y a d'intrigues dans ces tomes-là. Je ne sais pas, je m'en souviens pas, mais ce sera à voir. Mais il y a toujours plus qu'une intrigue.
Oui.
Ce sont les chroniques de San Francisco.
Mais c'est quoi tu disais avant l'affaire de Death Note? Parce qu'il me semble que tu étais lancé sur quelque chose, mais...
Que j'aimais les débuts puis les fins, c'est vraiment ça que j'ai...
Oui, mais c'est ça, c'est un peu le problème, c'est qu'on on attend tellement comme des choses intenses à la fin que, tu sais, le milieu, comme on est toujours OK, ouais, ça avance-tu. Fait que j'ai hâte de m'attacher davantage aux personnages dans les prochains tomes. Mickaël, j'étais déjà attaché. Wilfred, c'est rendu mon préféré. Je sais pas si on va le voir parce que des fois, les personnages secondaires disparaissent entre deux tomes. Mais Wilfred est quand même un rayon de soleil. Brian, ben, il est toujours constant. Là. À date, il ne m'a pas déçu. Là, mais pour revenir à ce que disait Maps, moi, je n'arrive pas à comprendre Marianne. Puis même Mona, je ne la comprends pas. Parce qu'elle disparaît, puis bon, c'est des états d'âme, bien sûr, je comprends, mais je trouve que le roman ne l'explique pas bien. Pourquoi qu'il est comme ça? Puis, parce que il n'y a rien dans son passé qui... justifie tant que ça, à moins que j'aille oublier des affaires.
Mais... Dans le passé de Mona?
Oui.
Ben, elle a toujours été à la recherche d'elle-même. Mm. Tu sais, elle a toujours été...
C'est la question, pourquoi elle est en recherche d'elle-même?
Ben, c'est parce qu'elle a jamais connu son père. Ah, okay. Finalement, quand elle l'a
connu, elle a sacré son cœur.
Ben, elle ne savait pas que c'était son père. c'était...
Mais non, mais quand elle l'a su que c'était qui, finalement, quand même parti sans rien dire pendant des années, puis c'était pourquoi-là que j'essaie de comprendre
ah, oui,
un
ça,
peu.
Oui.
C'est... Je ne comprends pas ces personnages. Fait, une chose que Michael et Brian, que je comprends, parce que c'est... J'ai un peu de misère.
Moi, ouais, j'ai... J'ai juste une petite affaire à dire qui n'a aucunement rapport avec Mona et sa quête de vie intérieure. Quand le livre a commencé, on a deux personnages qui s'appellent Elisabeth et Philippe qui se parlent. Puis là, j'étais comme « Oh! Elisabeth et Philippe arrivent à San Francisco! » Là, j'étais genre « OK, deux nouveaux personnages, let's go! » Je me note ça tout de suite avant de les oublier. Puis là, ben Chris, c'est la reine!
Ben oui!
J'ai fait « Ah! C'est bon! » J'ai trouvé ça excellent. J'étais genre « Ah! » Mais là, tu vois, ça, c'est funny. Mais après ça, c'était plus funny. C'est comme si... Ça, c'était comme un dernier restant de ouais. l'ancienne vibe un peu rocambolesque, là. Mais après ça, fou, on tombe dans quelque chose d'autre, là.
Puis, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais moi, je l'avais remarqué. La première phrase du roman qui parle justement de la reine, là, c'est... mais là, je... C'est en anglais, je vais essayer de le traduire vite. Elle avait 57 ans quand elle a vu San Francisco pour la première fois. Puis ça, c'est la première phrase du premier livre en parlant de Marianne. Mais là, on parle de la reine.
Mmh. Ah ouais?
Ouais, ben elle n'avait pas 57 okay. ans. Elle avait l'âge qu'elle avait, là, je pense 24 okay. ans. Mais c'est exactement la même phrase.
Ah, effectivement, je n'avais pas remarqué.
Je trouvais ça bien cute.
Ben, bravo, Armistead.
Je vous le dis, là, la suite est meilleure. Bref, moi, je pense pas mal avoir exploré ce que j'avais à dire sur Baby Cakes. Vous reste-t-il des points?
Ben moi, compte tenu de tout ce que j'ai entendu, je pense que mon seul regret, c'est que j'aurais aimé ça vraiment lire l'intrigue de John. Mais je ne sais pas si ça
y en a
vaut.
Pas.
Il y en a pas.
Mais comme lire son histoire, comme ouais. ce qui s'est passé, puis comme le deuil.
Ouais. C'est trois phrases, trois, quatre phrases. Ouais.
Oh, OK, d'accord.
À un moment donné,
je vais aller vous chercher.
Ben, à un moment donné, il raconte son histoire.
Oui, c'est vrai. Ça,
un
c'est
peu
touchant,
la fin. Ouais. Ouais, la fin à l'hôpital, puis qu'est-ce qu'il faisait pour lui, puis tout. Mais...
Que John est resté un être extraordinaire dans ces moments-là, qui continue d'essayer de faire rire tout le monde. Puis,
John était... un homme parfait qui ne méritait absolument pas Michael, à mon avis. Même si je l'aime beaucoup, là, je l'aime Michael, mais il y a beaucoup de défauts, puis il n'était pas à la même place que John dans la vie. Puis c'est ça, là. Mais bon.
OK, fait qu'on n'est pas dans, genre, n'essuie jamais de larmes sans gants, là.
Eh, hey, mon comme... Dieu! Non, Maps! Non. Non.
Qui graphine, non. Qui fait mal pendant des heures. OK. Non, bon, ben c'est correct de bord. Finalement, je suis en paix.
Ouais, non, c'était juste un chapitre, je pense. Enfin, puis je trouve que le rythme est bizarre aussi parce que les chapitres sont comme plus longs que
oui, c'est vrai.
Qu'on avait, puis ils vont à plus de place. Genre, c'est pas des scènes, c'est comme ils peuvent. Les personnages, comme, vivent dans un chapitre, puis je sais pas si j'aime ça. Moi, je préfère de loin, comme tombe 1, tombe 2, là, pour moi, ça va toujours être le best. Mais c'est ça. Fait, encore une fois, moi, je me disais que c'était pour toi parce que tu as plus de temps avec les personnages et tu vis plus avec eux autres. Mais bon. Ceci étant dit,
ouais, on se souviendra de Beloved. Fait que, en tout cas.
Ouais. Oh, on en passait beaucoup de temps avec elle.
Ah oh, oui! Ouais. Oh, oui.
C'était pas gagnant.
Boy!
Mais tu sais, c'est une drôle de façon de terminer notre avis sur Baby Cakes. As-tu d'autres questions, Maps? Je trouve ça drôle.
Tout va bien. Vous avez tout répondu. Je pense que l'histoire de Marianne qui veut se faire un enfant puis qui va avoir un autre puis que là, l'autre, il n'est pas fertile, c'était magnifique. Mais je pensais que c'était plus Brian qui en voulait. En tout cas, le début, ça revenait à dire que c'était lui qui revenait tout le temps à charge. Ben, fait que là, elle a accepté de donner un enfant, finalement, c'est ça l'affaire.
Non, on en a toujours voulu, mais elle savait déjà depuis le début que Brian est infertile, fait qu'elle a de la misère à en parler parce qu'elle ne voulait pas avouer à Brian. Elle n'a jamais dit à Brian qu'il est infertile. Fait que, elle en a toujours voulu, c'est juste qu'elle ne pouvait pas le dire à Brian qu'il est infertile. Dans le fond. Fait qu'elle avait pas l'air intéressée de l'avoir.
C'est pour ça qu'elle disait qu'elle voulait pas, c'est qu'elle en voulait.
Elle en voulait, mais elle savait que lui pouvait pas en avoir.
C'est ça.
Lolo, demande-moi pas les
il va falloir que tu le lises, Maps.
Non, mais demande-moi pas les détails de l'histoire. Là. Je pense qu'elle a pris un cup avec du sperme de Brian, puis elle a amené ça, genre, à l'hôpital pour faire analyser. Je sais pas trop comment ça s'est passé, là, mais elle le sait, mais lui, il le sait pas. What? Ouais, c'est...
Mais en tout cas, c'est... On dirait que moi, je l'ai perçu comme... C'est peut-être parce que je veux pas d'enfant dans la vie, là, puis qu'à chaque fois qu'il y a un personnage féminin qui veut pas d'enfant, je suis comme « Let's go! C'est ton point! » Mais j'ai tout le temps perçu, en tout cas tout le long du livre, que Brian voulait vraiment un enfant, puis Marianne, elle y allait de reculons, puis c'était pour faire plaisir, genre quand elle embarquait là-dedans. Là.
Non, on elle... en voulait vraiment un, puis c'est pour ça qu'elle a tout fait les tests. Elle comprenait pas pourquoi ça arrivait pas. Puis elle a la misère à en parler. Même au moment qu'elle est sur le bord d'en parler à Brian, qu'elle lui dit la vérité qu'elle est infertile, elle a fini par dire n'importe quoi au lieu de ça. Mais elle en veut vraiment, là. Puis c'est pour ça qu'il y a des discussions avec Connie aussi. Connie lui aurait pas donné son enfant si... Mais quoi que Connie...
C'est drôle. Ça se peut qu'elle ait fait... C'est ça aussi que j'avais comme perception au début, là. Tu sais, j'ai pas lu grand-chose, mais c'est ça que ça me donnait comme impression, que Brian n'arrêtait pas de la relancer, genre, on en... tu sais, c'est-tu le moment, là?
Ben, c'est ça que l'auteur veut qu'on pense, dans le fond, que Marianne n'est pas intéressée, parce qu'au début, elle n'a vraiment pas l'intéressée, puis c'est ça qu'il veut qu'on pense. Puis plus tard, il y a le punch que non, elle est intéressée depuis le début, mais c'est juste qu'elle sait que Brian est infertile, puis elle sait pas comment en parler, puis finalement, elle va chercher Simon, parce que Simon, il y ressemble.
OK. Ah, tu vois, moi, j'ai fait du déni, puis j'étais genre, elle n'en veut quand même pas, mais elle veut y faire plaisir, fait qu'elle veut dire oui.
Mais c'est vrai que ça, Marianne n'est pas tout à fait claire non plus. Là. Mm. Fait que...
Mais non, ça doit être mon filtre de lecture qui fait que je le vois de même.
Mais c'était vraiment une idée de marde, imagine, là, le bébé naît avec un accent british, what? Puis il y a une scène aussi de mensonge éhonté qui m'a fait enrager contre Marianne, où elle dit « Oui, je veux avoir un enfant avec toi », puis elle lance les pilules.
Ah oui!
Ouais, c'est ça, quand elle a jusqu'à choquer.
Alors que ça fait tellement longtemps qu'elle ne les prend plus. Genre. Mm. Enfin, Sab et les livres disent « Mon Dieu, il y a des péripéties là-dedans ». Oui, étonnamment, moins que dans les autres tombes. Oui. Bon.
C'est ça que j'allais dire. Imagine dans les autres.
Mais comme tu dis, il y a l'ombre du sida qui... C'est pour ça qu'il y a vraiment le contraste tout le long du roman entre ce qui se passe à San Francisco, ce qui est rendu très triste. San Francisco est rendu une ville grise. Mm-hmm. Puis il y a le contraste avec l'Europe. Parce que l'Europe, ils n'ont pas encore le sida. Mm-hmm. C'est pas encore arrivé. Fait que tout le monde en Europe sont encore... T'as le monsieur riche que lui, son rêve, c'est d'aller à San Francisco. Puis le Michael, il est comme blasé, comme non, ça sera pas ce que tu penses. Fait que t'as vraiment le contraste lumière-ombre pendant le sida, puis avant le sida. Fait que. Mais. C'est les dernières lueurs de lumière. Ça, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains tomes, parce que ça, pour l'instant, genre, on voit que l'auteur est quand même atteint par ce qui se passe. Puis San Francisco, l'amour libre. En a pris un coup, là. Ça a fait mal. Là. Puis, d'après moi, il a réellement fait un voyage en Europe. Puis le monde, il était troublé par se rendre compte qu'en Europe, le monde vivait comme à San Francisco, il y a 5 ans. Puis, il dit, OK, eux autres ne sont pas encore au courant que l'apocalypse s'en vient. Fait qu'il a fait un contraste dans le roman comme ça. Là. Mais, c'est Wilfred, il est encore tellement dans l'innocence. Puis le monsieur avec son château, là, son rêve qui... Il va être un petit peu déçu en arrivant à San Francisco. Là, mais au moins, il va pouvoir être lui-même et pas être pogné dans un château. Là. C'est pauvre lui, pogné dans un château. Là, t'as le temps qu'il déménage dans un petit appartement avec 3-4 cours.
Non, mais le monsieur qui vit dans son château avec des piercings en épaule, et je sais pas pourquoi ce détail-là est tellement important dans le livre, là. J'arrête pas d'en parler, on les entend, que cling, c'est partout.
OK.
Oui, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de raison. Y a pas, ça ne résout aucune intrigue. Là. C'est juste que c'est là.
Tout repose sur les nipple rings.
Non.
Les nipple rings. Et Caroline Thorat dit, je pense qu'elle veut, qu'elle en veut pour faire plaisir à Brian. Mais c'est ça, c'est un peu... c'est un peu ambigu qu'est-ce qu'elle veut vraiment entre ce qu'elle veut vraiment puis tous les mensonges qu'elle rencontre, qu'elle raconte, c'est difficile. Mm.
On a l'impression qu'elle se perd dans ses mensonges à certains moments aussi.
Puis j'aime beaucoup ce que tu disais, Dom, sur vraiment comme la lumière qui est comme en Europe versus l'ombre qui est à San Francisco. Et c'est quand même drôlement ironique que ce soit le gars en deuil et qui s'en va, va là-bas. Et il me semble que... Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est ça, là, il y a le... En fait, l'intrigue de Marianne, je la trouvais complètement folle et pas intéressante, et folle dans le mauvais sens, là, pas intéressante. Mais c'est encore plus difficile de la trouver intéressante quand, à côté, t'as un gars en deuil qui parle du sida, puis qui est comme, tu sais... Enfin, je trouve que le contraste des deux intrigues est tellement mal choisi.
Oui, puis t'as aussi le fait que ça fait juste un mois, puis le monde ont déjà un peu l'air de faire sentir à Michael, là, ça fait déjà un mois, faudrait que tu passes à autre chose, faut que tu t'amuses, faut que t'ailles voyager, tu changes les idées. Mais moi, si mon ami venait de perdre quelqu'un comme ça d'aussi important, après un mois, je serais encore là pour lui, je serais parti en voyage avec, puis c'est... Je trouve qu'il l'abandonne un peu, là, comme « Ah, va en Europe, Michael, là, tout seul, là. Puis ça, c'est moi, vrai. Mais j'ai trouvé ça un petit peu comme « OK, moi, je m'attendais à ce que Brian y aille avec, parce que Marianne l'expédie en Europe, comme « Ouais, Simon a besoin d'une chambre, fait que Michael, toi, tu vas en Europe. » Puis là, Madame Madrigal, que je prononce sûrement pas bien son nom, mais c'est parce qu'on n'a pas assez lu son nom dans le roman, fait que je l'ai un peu oublié. Mm. Mais qui donne l'argent. Puis, l'argent a l'air un peu facile hein, maintenant. On passe vraiment de des gens qui ont comme des problèmes financiers. On est tous riches. On a de l'argent comme bang bang. Ouais, je te paye ton voyage. Ah ouais, je te paye un château. Mais c'est pas
grave. Des lapins qui sortent des chapeaux tout le long. Ouais. On a besoin de quelque chose, on l'a. Proxy nous dit en même temps, si elle en voulait pas d'enfant, ça aurait fait son affaire que Brian soit infertile. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, je pense sincèrement qu'elle voulait des enfants, mais elle est empêtrée dans ses mensonges et nous, le lecteur, on est empêtrés dans ses mensonges. Donc, ouais. Bref, c'est pas mal ce que j'avais raconté sur Baby Cakes. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on pourrait parler de nos recommandations culturelles. Ah ouais, donc, Maps, puisqu'on t'a pas entendu tant que ça.
Bon, d'accord. En fait, j'aimerais vous parler de ce livre. Est-ce que t'es en droit? Parfait. Nos racines, Our Roots, de Shane Michael. J'avais découvert Shane Michael, il avait écrit de la poésie, puis absolument, j'aime pas la poésie, mais j'avais aimé la sienne. C'est un auteur queer malécite qui habite au Nouveau-Brunswick. Mais je sais pas s'il habite encore là. Il est Wolastoqué, c'est sa communauté. Puis cet ouvrage-là, en fait, il a décidé de le faire parce qu'il trouvait qu'il y avait un manque. Il connaissait pas les gens des autres communautés autochtones. Donc, il a écrit à 10 communautés autochtones. Il leur a demandé qui sont les personnes qui ont fait quelque chose d'intéressant, qui se sont démarquées au niveau politique, au niveau artistique, dans votre communauté que personne encore en vie ou non. Puis, j'aimerais ça écrire un petit chapitre sur ces personnes-là. Donc, il y a 11 personnes de 10 communautés différentes dont on va découvrir à l'intérieur de ce livre-là. Donc, c'est une non-fiction. C'est super intéressant. C'est écrit en 3 langues, donc français, anglais. Puis, la troisième langue, c'est la langue originale de la communauté. Donc, c'est jamais la même langue nécessairement. Et ça se lit super facilement, c'est super intéressant, puis on apprend à découvrir notre Québec, mais sous un angle non blanc. Donc, sous un angle de différentes communautés, on apprend à découvrir des artistes. J'ai écouté du rap d'un artiste autochtone. J'étais comme, oh my God, j'écoute du rap. Un, ça, c'est déjà... Donc, je pense que juste comme pour découvrir un petit peu plus notre histoire, d'avoir des noms en tête de personnes qui ont changé les choses, puis qui ne sont pas juste des Blancs, puis parce que ça ne fait jamais de mal de s'informer puis d'en savoir un petit peu plus sur les communautés autochtones. Puis ici, ben, on a quand même un vaste parcours des différentes communautés. Voilà ce que je vous suggère aujourd'hui.
Ça me tente vraiment de lire ça. Ouais.
Ça se lit en 30 minutes. Là, t'sais. C'est comme un tiers de page que tu lis à toutes les fois. Là, ben, là, y a pas de... Mais c'est comme ça que tu lis. Fait que, s'entend que aussitôt commencé, aussitôt terminé.
Excellent. Dom?
Là, j'allais vous conseiller une série, mais j'ai écouté un épisode tantôt que j'ai profondément détesté, puis c'est le dernier épisode qui est sorti à ce jour. Je vais quand même la conseiller, mais c'est vrai parce que j'ai pas trouvé d'autre chose à la dernière minute. Fait que c'est comme ça que je t'aime, une série québécoise.
Ah, ouais!
Ouais. Je rattrape mon retard sur OutuTV parce que maintenant, je me suis rendu compte que j'avais un abonnement gratuit, fait que là, j'écoute tout là-dessus.
OK.
Mais cette série-là est exceptionnelle, surtout la première saison. La première saison est quasiment sans faute scénaristique. Là. C'est magique. Je pense que c'est peut-être la meilleure série que j'ai vue de ma vie. Mais la saison 1, la saison 2...
Pas sûr.
C'est ça. Je suis vraiment pas sûr, mais dans saison 2, c'est là que je fais un lien. Il est question de San Francisco parce que c'est un peu les mêmes années. C'est l'amour libre. Puis là, c'est du monde de Sainte-Foy qui veulent décider comme, de faire comme à San Francisco. Fait qu'il y a cette thématique-là au travers des meurtres et des trahisons. Puis, c'est vraiment tout ce qu'on aime dans les premiers tomes de San Francisco, des chroniques. Ça, c'est vraiment exactement la même chose. Des enquêtes, des trahisons, des gros, des révélations qui n'ont pas de sens, puis de l'humour, mais des moments très sérieux en même temps. Fait que c'est si vous avez aimé les trois premiers tomes des chroniques, vous allez adorer cette série-là. Mm.
Moi, je ne comprends pas comment ça se fait que je n'ai pas entendu parler de ça. Et j'ai envie de renommer cette série « Les chroniques de Sainte-Foy ».
Oui, mais c'est vraiment le même ton, là, puis... le même esprit de famille aussi.
Ah, OK.
Amis qui sont assez soudés, serrés, même s'ils passent leur temps à s'entretuer.
Excellent. Ben, merci beaucoup. MH?
Alors, moi, quelle surprise, je vais vous recommander un podcast, comme à mon habitude. Cette fois-ci, ça va être, et c'est en lien avec le sida. Donc, ça va être... ben, je vous recommande le podcast au complet, mais là, c'est parce qu'il y a une nouvelle saison qui est sortie. C'est le podcast Dérive, qui est animé par Olivier Bernard, qui est aussi connu sous le nom du pharmacien sur les internets. Celui-là, ben, la saison 3 s'appelle Les secrets de la mafia médicale. Et contrairement aux deux autres saisons où il s'intéressait aux victimes de dérive. Mettons, la première saison, c'était une femme qui est décédée suite à un rituel de sudation. Dans la deuxième, c'est un jeune homme qui est décédé après avoir pris de l'ayahuasca. Cette fois-ci, il s'intéresse aux scientifiques qui partent en dérive, fait qu'ils se mettent à dire des affaires qui n'ont aucun Christ de bon sens et qui peuvent entraîner des décès chez des gens. Et là, ce qui a parti, dans le fond, sa prémisse de cette saison-là, c'est le décès du chanteur québécois Bernard Lachance, qui est décédé du sida. Parce que lui, s'était mis à croire que le sida, c'était une fraude, ça n'existait pas pour vrai. Et que là, ben là, il est décédé. Mais, il est décédé, pardon. Et dans le fond, pourquoi il a arrêté de prendre ses traitements? C'est parce qu'il y a des scientifiques qui disaient cette chose-là, que le sida, ça n'existait pas et tout. Donc, il s'intéresse à ça. Pourquoi des gens qui ont des études, et qui sont censés avoir un esprit critique, vont du côté sombre de la force? Et dans le fond, c'est ça qu'il explore dans cette saison-là, Les secrets de la mafia médicale. La mafia médicale, c'est un livre qu'une médecin, qui j'imagine a été radiée, qui s'appelait, ben, décédée maintenant, là, qui s'appelait Guylaine Langteau, qui avait écrit. Et ça a fait un gros boom là, quand c'est sorti ce livre-là. Et donc, j'ai pas écouté tous les épisodes encore, mais à date, ce que j'ai écouté, j'ai trouvé ça excellent. C'est tout le temps super fouillé. Il va interviewer des intervenants, des médecins, des gens qui ont connu Bernard, des gens qui ont connu Guylaine qui a écrit le livre. Fait que c'est vraiment... moi, j'adore. Ben, j'adore pas mal tout ce qu'il fait, le pharmacien. Là, j'étais un peu peut-être biaisée, mais c'est excellent. Puis de voir qu'il, cette fois-ci, s'intéresse aux scientifiques et non pas aux... aux victimes, mais c'était vraiment intéressant aussi, là, mais c'est juste l'envers de la médaille. Mm-hmm. Je trouve ça le fun. Tu sais, qui questionne sa propre équipe, dans le fond. Mm-hmm. C'est intéressant.
Mm. Tu le vends bien, en tout cas.
Oui.
Ben, merci. Ben, ouais.
Si oui. J'étais capable de rentrer les podcasts dans ma vie quelque part, là, je le mettrais sur ma liste. Parce que la ayahuasca, ça me fascine. Puis les trucs de sédation aussi. Là. Puis les scientifiques qui... en tout cas, les gens avec des hautes études qui devraient propager les bonnes informations. En tout cas, tout ça, ça je suis vendue. Là. Mm-hmm. Fait que si tu peux me trouver un autre 24 heures dans ma journée, là, je vais passer à écouter des podcasts.
Ouais.
Faut qu'on se réunisse au gym là, puis qu'on écoute tous nos podcasts. En même temps.
Faut qu'on aille au gym.
Faut qu'on aille au gym. OK, donc bon, on fait ça.
Ben moi, j'ai envie de vous parler d'un... Non, je change d'idée live drette là. J'allais vous parler d'un livre que je suis en train de lire, mais j'aurai l'occasion de vous en parler de ce livre-là. Ça s'annonce pour être un livre que j'aime beaucoup. Ah, je fais-tu du suspense? OK, je vais en parler.
Non, non, laisse-nous pas de même, ça agace.
Je vais en parler. Je suis en train de lire, je ne l'ai pas terminé, mais je suis en train de lire Philippe Besson, Un soir d'été. C'est son tout dernier livre, il vient juste de paraître. Je suis parti avec le jour où on l'a sorti de la boîte, évidemment. C'est ça, il retourne à ses histoires autobiographiques, point d'interrogation. En tout cas, il est le narrateur de ce livre-là. Et ça se passe en été, ça se passe sur une île française, l'île de Ré. Et c'est ça, il fait chaud, c'est l'été, on est jeune, il y a peut-être un garçon qui nous aime, puis nous, on aime les garçons. Est-ce qu'on aime ce garçon-là? Et puis, il y a une petite fille avec une fille qui a l'air de triper sur un de nos amis, mais c'est un autre de nos amis qui tripe sur elle. Mais là, comment ça va finir cette histoire-là? Je le décris mal, là. Je le décris vraiment mal. Moi, je déguste ce petit livre-là. Je le lis tranquillement. Dans nos soirées froides d'hiver, je me retrouve en été un petit peu à chaque fois, puis j'ai beaucoup de plaisir. Et c'est ça, en fait, je le décris assez mal parce qu'au départ, on nous promet la disparition d'une de ces personnes-là. On ne sait pas laquelle. Et donc, on sait que le drame s'en vient. Et c'est Philippe Besson, c'est la belle écriture de Philippe Besson, c'est l'auteur que j'aime, c'est vraiment, vraiment Philippe Besson. Ce n'est pas du tout Bret Easton Ellis, mais il y a un petit peu des éclats dans ce livre-là.
Oh ben, Maps!
Tu vas-tu mettre dans le club, genre, en juillet?
Ah, il faudrait faire ça, hein? Ou en tout cas, moi, je m'étais dit que je t'enverrais peut-être un message pour qu'on fasse un petit épisode là-dessus, peut-être.
Lecture commune!
Lecture commune! Mais, puis là, ben, je me suis dit, oh non, j'en parlerai pas, je vais parler d'autre chose, mais je vais quand même prendre quelques secondes pour parler de la 11e saison de American Horror Story. Qui est aussi qui se passe dans les années 80 et qui est aussi sur le sida. Les saisons de American Horror Story, vous pouvez les écouter dans l'ordre que vous voulez, mais en même temps, c'est une très bonne série, donc amusez-vous à les écouter toutes. Mais particulièrement la 11e saison qui s'appelle NYC, donc New York City, ça se passe dans les années 80, c'est le sida et c'est une histoire d'horreur, donc il y a un psychopathe qui fait beaucoup penser à Jeffrey Dahmer, qui s'en prend à des gens. Et il y a en même temps un autre psychopathe qui est une espèce de gros bonhomme musclé qui s'en prend à des gens et qui tue des gens, des hommes gays particulièrement, mais pas que. Et on réalise que c'est pas vraiment un punch. On sait très rapidement que cette entité-là, ce deuxième psychopathe-là, est en réalité une métaphore pour le sida. Et donc, il s'en prend aux hommes qui ont des relations sexuelles dans les endroits peu recommandables. Il y a aussi une femme qui accepte d'être mère porteuse pour un homme qui ne sait pas qu'il y a le sida, qui se retrouve victime de cet assassin-là. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une belle profondeur à cette saison-là en particulier. Il y a beaucoup de... Il y a une belle couleur aussi, un beau thème. Il fait chaud. C'est New York, puis il fait chaud. Puis je trouve que c'est... On a reproché à la série de faire un peu n'importe quoi, mais je trouve que cette saison-là en particulier, elle revient vraiment à la hauteur des premières saisons. Donc, à regarder. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Alors, je vous remercie, mes amis, d'avoir été ici, d'avoir lu ou pas Baby Cakes. Et oui, nous allons lire le tome 5 en mai. Nous allons lire le tome 5 en mai. Mais en février, on va se retrouver pour parler de « Et si l'amour s'était aimé? » Donc, on va se retrouver en février pour parler d'amour. Mm-hmm. On se retrouve donc à ce moment-là. Je vous remercie d'avoir été là. Et à très bientôt. À très
bye
bientôt.
Bye. Bye. Bye.